France Culture.
La semaine dernière, l'auteur de bande dessinée Bastien Vivès a été renvoyé devant la justice pour, je cite, « fixation et diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs ». Les œuvres de cet artiste avaient déjà été visées dès 2018 par plusieurs associations, mais les plaintes avaient été classées sans suite. Dans quelques mois, la justice devra statuer à nouveau et trouver l'équilibre entre la liberté de création et la protection de l'enfance. Alors peut-on tout représenter, tout dessiner ? Représenter l'inceste, est-ce le banaliser ? Ou décrire une part du réel. Pour en discuter, pour en débattre, deux invités ce soir. Agnès Tricouard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle. Vous êtes la présidente de l'Observatoire de la liberté de création. Vous avez co-dirigé le guide pratique de l'Observatoire intitulé « L'œuvre face à ses censeurs », un ouvrage qui a paru en 2020. Vous avez par ailleurs publié en 2011 le petit traité de la liberté de création. C'était aux éditions de La Découverte. Face à vous, Karine Durieux-Diebolt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Vous êtes ancienne membre de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Merci à toutes les deux d'être présentes ce soir dans Questions du soir.
Le dessinateur de BD Bastien Vivès sera bien jugé en mai pour diffusion d'images pédopornographiques. Plus de deux ans après le déclenchement de la polémique et l'annulation de son exposition à Angoulême, le parquet de Nanterre renvoie l'artiste et deux de ses éditeurs devant la justice, Augustin Arrivé.
Je ne suis pas là pour panser les plaies de la société, réagit aujourd'hui l'auteur. À l'automne dernier, il avait sorti La vérité sur l'affaire Vivès, album satirique dans lequel il racontait avec une ironie provocante comment il était brutalement passé de signature chérie de la critique à paria du milieu. Bastien Vivès promet aujourd'hui sur Instagram d'aller au tribunal, je cite, expliquer que des dessins ne sont pas la réalité.
Reportage signé par nos confrères de France Info, Karine Durieux-Diebolt. Comment comprendre, comment est-ce que vous analysez vous-même cette décision du parquet de Nanterre?
Eh bien, écoutez, on a un texte de loi, le Code pénal, l'article 227-23, qui prévoit que la détention et la diffusion de pédopornographie est une infraction pénale. C'est un délit. C'est un délit qui est puni de 5 ans d'emprisonnement maximum. Et le simple fait, il faut quand même savoir que vos auditeurs sachent que le simple fait de détenir des images ou des représentations de mineurs dans un cadre pédopornographique, c'est constitutif de ce délit-là. Donc, dans la mesure où effectivement, à travers les images et les reproductions, même dans le cadre d'un dessin de Bastien Vivès, on a des enfants, et on a des enfants de 8, 10 ans, 12 ans qui sont présentés dans un contexte sexuel, dans une mise en scène sexuelle, c'est de la pédopornographie. Et donc, il est logique qu'il y ait des poursuites à cet égard.
Agnès Tricouard, est-ce que cette décision du parquet de Nanterre vous semble aussi légitime que l'exprime Karine Durieux-Diebolt ?
Ben non, pas du tout. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On parle dans un cadre qui est protégé par une loi qui date de 2016, qui s'appelle la loi LCAP. Et LC, ça veut dire liberté de création. C'est vous dire l'importance qu'a pris cette liberté. Cette liberté, l'Observatoire que je préside a contribué à la créer. Elle n'existait pas. Nous, on s'est créé en 2002 et on agrège autour de nous une vingtaine d'organisations qui représentent tous les secteurs de la culture et un certain nombre de personnalités qui connaissent la censure de façon interdisciplinaire. Et on discute et on débat beaucoup. Et on adore le dissensus productif. Enfin, c'est pas du tout un lieu
c'est
univoque.
C'est le but aussi de cette
exactement.
Émission.
Alors, exactement, c'est pour ça que je le dis. Alors, cette loi, elle est très sommaire. Hein. Elle dit des choses très simples. Elle dit que la création est libre et que la diffusion des œuvres est libre. Et elle prévoit un délit d'entrave, notamment pour les excités qui vont empêcher les concerts. Et vous voyez à quoi je veux faire référence, puisqu'il y a une affaire à Metz qui se passe demain, un concert qui ne peut pas avoir lieu, organisé par le Centre Pompidou dans la cathédrale de Metz. Donc voilà le genre de choses auxquelles on fait face, nous, depuis plus de 20 ans. Mais je reviens à la notion de liberté de création. On a contribué à la théoriser. Alors, pour que les éditeurs comprennent, le grand ensemble, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté fondamentale, donc l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la liberté de création est une partie, est un sous-ensemble de cette liberté de création, de cette liberté d'expression. Mais elle a des spécificités, parce qu'une œuvre, c'est pas un discours politique, c'est pas un discours argumentatif, ça n'est pas de la même nature. Et quand on prend connaissance d'une œuvre, on n'est pas dans le même état de réception que quand on prend connaissance d'un discours politique. Je ne réagis pas de la même façon à une fiction que à Trump qui dit que Volodymyr Zelensky est un dictateur. Je n'ai pas les mêmes ressorts mentaux et psychiques pour apprécier ce qui m'est donné. Dans un cas, c'est une information, qui est une désinformation d'ailleurs, donc je mets en œuvre ma capacité de juger, de penser. Dans l'autre, on me raconte une histoire, donc on me prend par une autre main. On s'adresse à mon imagination. Et donc, on ne m'explique pas que ce qui est dit dans la fiction est de la réalité. Et il y a une énorme différence. Et ce qui m'affole un peu, pour revenir à votre question, c'est qu'en 2025, on en arrive à se poser des questions qui étaient à peu près résolues à la moitié du 19e. C'est-à-dire que la distinction entre la réalité et la fiction, le reproche fait aux auteurs de montrer... par exemple, on a fait ce reproche aux écrivains naturalistes. Hein, et c'est Georges Sand qui répond « J'ai le droit de tendre mon miroir vers la boue du ruisseau. Ça n'est pas de mon fait s'il y a de la boue dans le ruisseau. » Donc ça pose une question très générale, j'ai fini, c'est... Est-ce qu'il y a en France des interdits représentationnels ? Ça pose une question de fond énorme. Et si oui, sur quel fondement, sur quels critères, comment on raisonne, pourquoi celui-là et pas un autre, etc., etc. J'espère qu'on va pouvoir en débattre.
Et justement, c'est tout l'enjeu de cette discussion. Pourquoi, selon vous, hein, Karine Durieux-Diebold, fixer cette limite au sujet de la pédopornographie ? Pourquoi cette limite-là ? Et pas une autre. On reviendra par ailleurs sur les textes que vous avez chacun évoqués. Oui.
Je vais rebondir sur une autre question, puisque ma consoeur, enfin madame vient d'interroger pour terminer son propos. Est-ce que la liberté d'expression et la liberté de création est absolue, sans limite ? Eh bien non. On a des limites par rapport à l'incitation au racisme, à l'incitation au terrorisme, l'incitation à la violence, et on a une limite également au regard de la pédopornographie, parce que vous avez en fait une balance qui doit être faite, justement par le tribunal dans l'affaire qu'on a évoquée tout à l'heure, qui va être celle de savoir quel équilibre on trouve entre la liberté d'expression, la liberté de création, et la protection de l'enfance, et la lutte contre la pédocriminalité. Donc oui, la société a décidé que on n'a pas une liberté d'expression ou une liberté de création qui va être absolue parce qu'il peut y avoir un danger pour la société, parce qu'il peut y avoir un trouble à l'ordre public, parce que, à mon sens, il n'est pas normal, par exemple, que sous couvert d'une création, eh bien, on banalise le racisme. C'est pas, si vous avez tout d'un coup des publicités ou des films à la télé qui banalisent le racisme, eh bien, évidemment, que ça va poser une difficulté également d'un point de vue social.
Agnès Tricouart, pourquoi faut-il...
Je suis d'accord avec ça, déjà. Déjà, c'est important de ne pas être qu'en désaccord.
Je formule simplement cette question-là. Pourquoi interdire les représentations qui véhiculent le racisme et les idées racistes et justement autoriser les représentations qui véhiculent des représentations, c'est le cas de le dire, de la pédopornographie ?
Alors, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et je vais vous donner deux exemples complètement différents. La première décision du tribunal de grande instance de Paris, qui s'appelait encore le tribunal de grande instance à l'époque, à propos d'un livre qui fait l'objet d'une polémique incroyable entre les Inrock, Le Monde, etc. Un auteur qui s'appelle Beignet Burkel, qui est accusé à propos d'un roman qui s'appelait Chaos, d'antisémitisme, parce que un de ses personnages tenait un propos antisémite. Et le tribunal reprend le manifeste de l'Observatoire, qui est publié en 2003. Le tribunal statue 3 ans après et dit, je vous le lis, je vous l'ai apporté, « La notion même d'œuvre de fiction implique l'existence d'une distanciation qui peut être irréductible entre l'auteur lui-même et les propos ou actions de ses personnages. Une telle distance appréciée sous le prisme déformant de la fiction est susceptible d'entraîner la disparition de l'élément matériel du délit, c'est-à-dire en l'occurrence du délit d'antisémitisme. Ce que dit là le tribunal en termes assez techniques, c'est la même chose que ce que disent encore une fois les écrivains depuis la fin du 19e. C'est pas parce que un écrivain fait tenir un propos à un personnage, déjà que lui pense ce qui est l'opinion du personnage, et deuxièmement, que celui qui lit va prendre le propos de façon littérale. C'est de ça que ça parle, c'est la question de la distance. La fiction introduit une distance, c'est-à-dire que quand vous êtes face à une fiction, vous ne croyez pas que ce qui vous est dit, c'est la vérité. Quand vous êtes au cinéma et qu'il y a un avion qui vous fonce dessus dans l'écran, vous ne baissez pas la tête parce que vous ne pensez pas qu'il va sortir de l'écran. Vous savez que vous êtes face à une histoire. On vous apprend ce que c'est qu'une histoire tout petit. Donc ça, on sait l'identifier et on ne cesse d'apprendre ensuite à l'identifier. Et d'ailleurs, même quand on est adulte, on voit bien que dans le monde dans lequel on vit, on passe notre temps à essayer de vérifier que les histoires sérieuses qui nous sont racontées par les journalistes ou par les hommes politiques sont réelles. On va aller rechercher de la vérité. On n'a pas cette réaction face à une œuvre de fiction qui nous raconte une histoire. Et puis parfois, ça mélange les deux. Parfois, c'est complexe. Et donc nous n'arrêtons pas de nous poser des questions et de mettre les choses en discussion. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est Dieudonné. Vous avez raison, il y a des limites. Et la Cour européenne des droits de l'homme le dit. Dieudonné, il ne peut pas se revendiquer de l'article 10 qui protège la liberté d'expression, parce que sa façon de s'exprimer et de se servir de la liberté de création comme paravent ne trompe personne sur le fait qu'en réalité, ce qu'il dénie, très très fort ce que dit la Cour, elle dit il dénie les fondements même de notre démocratie commune. Et des fondements même de la Convention européenne. Ce qu'il dit sape nos valeurs fondamentales. Alors, il n'a même pas le droit à la protection de l'article 10. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a absolument des limites, mais c'est pas celle que vous dites, et c'est du cas par cas. Et il faut faire très attention à pas rentrer dans des généralités qui sont très problématiques.
Une réaction, Karine Durieux-Diebold. Et après, je voudrais citer Bastien Vivès, qui lui aussi a matière à se défendre.
Oui, je suis d'accord avec le cas par cas, évidemment. Alors ça, c'est vraiment la base de notre démocratie et de notre droit. Mais je voudrais justement revenir à une jurisprudence aussi de la Cour de cassation de 2007, puisqu'il y avait eu une condamnation justement pour les faits qui nous occupent de même nature, pour ce qui concernait un manga, pour un enfant qui avait des rapports sexuels qui étaient représentés en situation sexuelle avec des femmes. Et donc là, la Cour de cassation, elle a considéré que les images et les représentations à travers des dessins ou des transformations d'images réelles caractérisent l'infraction. Donc oui, il avait été retenu à travers cette jurisprudence-là, que les dessins et les représentations d'images réelles d'enfants, et d'ailleurs dans le texte, si vous revenez au texte de 227-23, il est indiqué des images réelles et des représentations, et ça avait été rajouté en termes de représentation pour viser justement des dessins. Et ce qui...
Non.
On va revenir...
Des dessins animés ou autres.
Non, pas du tout.
On va revenir sur ce terme, parce que je sais qu'il y a un débat justement sur le contenu du texte. Juste une citation de Bastien Vivès, je voudrais vous faire réagir, Karine Durieux-Diebold. Il dit « Je suis un auteur de bande dessinée, je ne suis pas là pour penser les plaies de la société, œuvrer pour la morale, mais juste pour donner à réfléchir, faire un pas de côté avec un trait d'humour, interroger l'obscurité aussi. » C'est un texte qu'il a transmis à l'AFP. Comment vous réagissez justement face à cette ligne de défense-là ?
Alors moi, la morale, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas là pour faire de la morale et je suis complètement contre les moralisateurs, c'est pas du tout mon souci. Mais là, quand on parle de pédopornographie, en fait, quand on reproduit des scènes d'actes sexuels entre un enfant et des adultes, il faut savoir qu'on vise des infractions pénales. En l'occurrence, c'est des représentations d'infractions pénales, parce que les actes sexuels entre un mineur de moins de 15 ans et des adultes sont constitutifs de viol ou d'agression sexuelle. C'est interdit dans le cadre de notre société. Et donc, la question qui se pose, c'est quand on présente de manière même répétée à travers une œuvre des scènes de viol ou d'agression sexuelle de manière pratiquement neutre, avec une certaine complaisance. Est-ce que de cette manière-là...
C'est le cas selon vous dans le travail de Bastien Vivès ?
Ben, il n'y a pas de condamnation des viols ou des actes qui représentent. Moi, je n'ai pas vu, même dans ses propos, qu'il a pu tenir.
Ça s'appelle un jugement moral. Hein. Vous vous dites que vous ne faites pas de morale, mais là, c'en est. Hein.
Non, mais c'est pas de la morale. Et ça ne m'intéresse pas, ça. Je vous parle d'infraction pénale, de reproduction d'infraction pénale, de crime ou de délit. C'est comme ça que c'est caractérisé par la loi. Et sans condamnation, sans accompagner d'une manière ou d'une autre. Et donc, rester neutre, rester complaisant, évidemment, que pour moi, ça cautionne en fait ce que l'on présente comme une œuvre d'art dans ce contexte-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez de la même manière un film ou une œuvre qui fait référence à du racisme en le présentant comme quelque chose de normal, si on vous dit le racisme c'est normal dans notre société, eh bien qu'est-ce que vous allez en penser ? Est-ce que vous n'allez pas penser que c'est une manière de banaliser le racisme et de l'enraciner dans notre société ? Donc voilà, c'est pas de la morale, c'est simplement qu'on répète des infractions pénales sous couvert d'une œuvre et que de cette manière-là, on le banalise.
Agnès Tricoire, une réaction. Et au-delà, est-ce que ça veut dire plus généralement qu'il y a des coins du réel, des parts du réel qu'il faudrait ne pas représenter ?
Non. Non, mais je vais réagir. En fait, les mots que vous utilisez sont symptomatiques de l'erreur de raisonnement, si vous me permettez que je vous le dise, que vous commettez.
Pas tout à fait d'accord.
Vous dites. Donc, je vais essayer.
Je vous laisserai réagir, bien sûr.
Je vais essayer de m'exprimer. Vous dites reproduire des infractions. Ça voudrait dire reproduire le réel. Or, une œuvre d'imagination, une œuvre de fiction, ne reproduit pas le réel.
Elle le représente.
Elle l'invente. Oui. Ça n'a rien à voir.
Elle le représente.
Elle l'imagine. Non. Non. Alors, on va pas commencer à s'interrompre. Hein. En l'occurrence, il n'y a aucun référent réel dans les si vous voulez. Alors, on va faire un tout petit peu de narratologie. Si dans un roman, il est évoqué la ville de Rome. La ville de Rome, c'est un référent au réel direct. Le lecteur identifie la ville de Rome. Dans les bandes dessinées de Vivès, il n'y a aucun référent à la réalité, quelle qu'elle soit. Tout relève de la fiction, de l'imagination. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il reproduit des délits pénaux, parce que alors, si on tient ce raisonnement, moi, j'ai des questions à poser. Dans ces bandes dessinées, il n'y a aucun enfant réel qui est représenté. Personne ne dit « Bastien Vivès s'est servi de l'image de tel enfant pour le reproduire et l'imiter dans une bande dessinée. » Il n'y a donc aucune victime identifiée. Personne. Donc on est uniquement sur un registre moral. C'est la différence. C'est comme ça.
C'est ce qui fait par ailleurs la singularité du dessin.
C'est ce qui fait absolument la singularité du dessin. Et celui-là, il y a des dessins qui sont réalistes et qui cherchent à imiter la réalité. Lui, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Deuxièmement, est-ce qu'on demanderait à l'auteur... Parce que là, on a interrogé... Les policiers ont interrogé Vivès et l'ont interrogé sur ses pratiques sexuelles, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on demanderait à un auteur de romans policiers s'il tue les gens comme ses héros? Vous voyez l'absurdité de poser des questions de cette nature à quelqu'un qui écrit de la fiction. Il s'agit de personnages qui n'ont aucun lien. Est-ce qu'on va dire, là vous dites consoeur que c'est un enfant, est-ce qu'on va dire d'Astérix que c'est un homme? Ben non, on va dire que c'est un personnage. Il ne viendrait à l'idée à personne de nommer Astérix homme. C'est un personnage, tout le monde le sait, tout le monde l'identifie. Donc, il y a, vous forcez complètement, vous l'avez d'ailleurs dit, pour émettre le jugement que vous émettez sur l'œuvre, vous la disqualifiez, vous dites sous couvert de faire une œuvre d'art, ça veut dire que vous ne lui reconnaissez même pas la qualité de l'œuvre d'art. Moi, je suis exactement à l'autre point je suis à l'autre point du raisonnement, c'est-à-dire que je la vois comme une œuvre d'art, nous savons les identifier à l'observatoire comme des œuvres d'art, nous savons aussi ne pas nous laisser faire quand il s'agit d'œuvres d'art qui masquent des délits. Donc, moi, j'ai plaidé contre Dieudonné sans aucun problème. J'ai plaidé contre Valeurs Actuelles, qui avait fait ce dessin de Daniel Obono, la représentant comme esclave, sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de dogme de notre côté. Mais là, en l'occurrence, Vivès, il est complètement dans les deux pieds de la fiction.
Toute la question qui se pose, en tout cas c'est mon sentiment en vous écoutant l'une et l'autre, Karine Durieux-Diebold, c'est encore une fois, est-ce qu'il y a une singularité qui entoure la question de la pédocriminalité? Est-ce que la question même aussi, puisque c'est la question de l'inceste aussi qui est abordée dans les œuvres de Bastien Vivès, est-ce que ces deux sujets-là doivent avoir un régime particulier s'agissant de la représentation artistique?
Alors, je vais d'abord répondre sur l'image et la représentation, parce que je vais juste lire le morceau du code pénal, article 227-23. L'infraction qui est visée, c'est le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur. La représentation d'un mineur, ça peut être bien évidemment à travers un dessin animé, un dessin ou quoi que ce soit. L'image, c'est l'image réelle, et la représentation, c'est la création justement d'œuvres d'art la représentation, ça peut être le dessin, voilà, d'un enfant. Et d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation l'a déjà retenu pour des mangas. Donc, il n'y a pas de difficulté sur cette notion d'image. Ensuite, est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à la pédocriminalité? Mais non, il n'y a pas une spécificité. Il y a d'autres types d'infractions et d'interdits qui ont été posés pour la liberté d'expression et la liberté de création.
Lesquels? Je vous écoute.
Écoutez, on va aller sur l'article 227-24. Vous avez aussi l'incitation au terrorisme, des images pornographiques impliquant des animaux, etc., qui atteignent la dignité des êtres humains. Donc oui, il y a des limites à la liberté d'expression, parce que croyez-vous vraiment qu'il n'y a aucune limite, qu'il n'y a que la pédocriminalité qui ressurgit comme une limite qu'on aurait sortie ces derniers temps sous l'ère de la morale, puisque vous m'avez invoqué cela tout à l'heure? Non, la pédocriminalité, c'est un interdit parmi d'autres.
Je voudrais vous faire réagir, Agnès Tricouard, à un texte qui avait été écrit en 2018, au moment où une pétition signée par 3000 personnes avait tenté d'empêcher justement la publication des œuvres de Bastien Vivès. Et ce texte disait: s'ajoute à ça une scène jugée borderline par son propre auteur, où Petit Paul, c'est le nom du protagoniste de la bande dessinée de Bastien Vivès, où Petit Paul se fait abuser par son institutrice. Nous rappelons que le livre est censé être humoristique, et il nous paraît délicat de rire d'une scène faisant l'apologie de l'abus d'enfant, un sujet malheureusement bien trop actuel. Fin de citation. Est-ce que l'œuvre de Bastien Vivès fait justement l'apologie de l'abus d'enfant? C'est aussi l'une des questions qui revient régulièrement dans ce débat.
Alors, moi je ne suis pas l'avocat de Bastien Vivès, et cette question sera débattue au tribunal.
C'est Richard Malka, son avocat.
C'est Richard Malka, absolument. Et je ne me prononcerai pas sur cette question qui va vraiment relever du procès. Mais effectivement, nous sommes face à la difficulté suivante, c'est qu'il y a des dispositions du code pénal qui ont été mal écrites et dont on demande la modification depuis qu'on est constitué. Par exemple, on demande que le terme « représentation », sur lequel s'appuie ma consoeur...
Sur lequel vous débattez tout à l'heure.
Sur lequel on débattait et sur lequel s'appuient les plaintes, soit retiré de l'article 227-23, qui a son utilité et qui est très nécessaire pour lutter contre la diffusion des images pédopornographiques. Mais ce terme de représentation, contrairement à ce que dit ma consoeur, ne visait pas les œuvres au départ dans les débats parlementaires, mais il avait été rajouté par le sénateur Jolibois pour viser les images de synthèse. Il disait, on est en pleine évolution technologique, et il y a des images de synthèse qui peuvent ressembler beaucoup à des images réelles. C'est ça qui avait fondé l'ajout du terme représentation. Le fait que ça s'applique désormais à des œuvres, c'est une dérive de la jurisprudence. La décision sur les mangas de la Cour de cassation, elle est stupide, et moi je peux vous en citer 10 autres de décisions de la Cour de cassation, alors pas nécessairement sur cet article-là, mais sur l'ensemble des articles qui permettent de réprimer les œuvres, qui sont des décisions libérales et qui donnent raison à l'artiste, au diffuseur, etc. Parce qu'en fait, la loi française est, comme d'habitude, sur tous les sujets, une espèce de constellation de petits articles qui sont pas pensés du tout pour la répression des œuvres au départ, et puis que tout d'un coup, une association découvre, et dont elle, vous savez que souvent les associations maintenant sont à l'origine des demandes de censure, et que le paysage d'ailleurs s'est complètement diversifié à cet égard, parce qu'au départ, nous, quand on s'est constitué en 2002, c'était plutôt des associations de droite et d'extrême droite. Aujourd'hui, il y a des associations de tous bords. Il y a une acceptation de la demande de censure qui est beaucoup plus large. Moi, j'ai été enseignante assez longtemps, et au début de mon enseignement, tout le monde pensait que la censure c'était mal, et j'ai été sidérée. Puis je m'y suis habituée, mais c'est comme ça. De voir que quand je posais la question à une salle de jeunes ou d'un peu moins jeunes d'ailleurs, dans le cadre de formation continue de haut niveau. Tout le monde a aujourd'hui une bonne raison de vouloir censurer les œuvres. Et donc, on a de plus en plus de travail, comme vous vous en doutez, pour lutter. Mais surtout, nous, ce que nous disons depuis le début, c'est débattons. C'est-à-dire débattons non pas pour interdire ce qu'on est en train de faire là, et qui est totalement inefficient. Je veux dire, il n'y a pas un seul enfant qui va être protégé de l'inceste parce qu'on est en train de demander l'interdiction. C'est un problème suffisamment grave. Je trouve que c'est hallucinant de déplacer à ce point le débat. Pour lutter contre l'inceste, il faut des médecins dans les écoles, il faut des infirmières dans les écoles, il faut renforcer tout le système de prévention, et ça ne sert strictement à rien d'aller incriminer un auteur de BD que chacun est libre de lire ou ne pas lire.
Je reste un instant quand même sur cette notion d'apologie, parce qu'elle me semble importante, Karine Durieux-Diebold, cette notion d'apologie, cela revient à dire que le juge va interpréter l'œuvre, c'est au juge qu'il va revenir au fond de savoir si Bastien Vivès a tenté ou non de faire l'apologie de la pédocriminalité. Comment est-ce que vous abordez cette notion justement d'apologie ?
Je ne crois pas qu'il soit poursuivi pour apologie.
Mais c'est quelque chose qui lui reprochait.
Alors, ça a pu lui être reproché. Alors, attention, on va distinguer ce que vous avez pu lire dans la presse à travers, effectivement, les revendications des associations de protection de l'enfance et ce qui a été retenu par le procureur. Le procureur, de ma connaissance, n'a retenu que l'infraction prévue par l'article 227-23, mais pas l'apologie et pas l'incitation. Il ne me semble pas. Donc, je ne suis même pas certaine que ça va être débattu, puisque en ce qui concerne la fixation et la diffusion d'images pédopornographiques ou de représentation d'images pédopornographiques, la défense à ce moment-là qui peut être amenée, c'est normalement plaider sur l'âge du mineur ou le caractère pédopornographique. Le débat, à mon avis, va plutôt se porter là-dessus. Mais il ne me semble pas qu'il y ait un débat sur l'incitation et l'apologie. Alors, si vous voulez que je m'exprime sur la notion d'apologie...
S'il vous plaît.
Ce que je peux dire, c'est que le fait de banaliser ou de minimiser des viols ou des infractions sexuelles de manière générale, c'est ce dont on parle d'ailleurs ces derniers temps, on en a parlé aussi à travers l'affaire Pellicot, c'est la culture du viol. Ça fait partie aussi de la culture du viol, c'est-à-dire à partir du moment où on va minimiser des faits de viol, eh bien ça va créer une adhésion de la société. Alors ma consoeur disait, il n'y a pas un enfant qu'on va sauver en interdisant l'œuvre. Si d'une certaine manière.
Ah bon? Alors
vous avez. Attendez, vous avez dit vous-même que personne ne devait se couper.
Je devrais. Si, d'une certaine manière, parce que, en fait, il s'agit de ne pas banaliser le viol dans la société, qui est de moins en moins de violeurs. Et si vous dites à travers des œuvres que finalement, c'est normal, c'est une normalité que un enfant ait des actes sexuels avec une maîtresse au niveau du CP, comme c'est représenté dans les bandes dessinées en question, ou alors qu'une petite fille, une enfant vient chez les médecins et est violée par plusieurs médecins dans le cadre de viols en réunion. Si on banalise et si on montre ça comme quelque chose de normal, eh bien ça fait partie de la culture du viol. Et la culture du viol, c'est aussi les esprits, c'est-à-dire la société, elle est aussi, si vous voulez, imprégnée de ce qui émerge dans notre société. Donc évidemment que c'est important.
Oui, mais alors moi, la question que je me suis posée très naïvement, sans doute, je vous l'accorde en préparant cette émission, cela signifie qu'il y a des choses, encore une fois, qui existent dans la société. Il y a une part du réel qui ne devrait pas être représentée. Comment on fait aussi pour décrire ce qui existe, pour raconter ce qui existe, tout simplement ? Et en l'occurrence, alors, pour le dessiner, quand il le faut.
On peut le présenter, on peut le dénoncer. Il y a des œuvres qui dénoncent le viol. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a eu des films, je pense à Dupont-la-Joie, on a un viol. Évidemment que c'est dénonciateur dans ce film-là et qu'il n'y a pas d'apologie. Donc c'est là toute la différence aussi. Et pour dénoncer, parfois, il faut montrer. Donc c'est peut-être ce qui entoure aussi l'œuvre de Bastien Vivès qui pose problème. Peut-être que c'est aussi ses propos qui ont posé problème. Là, je m'interroge également. Peut-être que ça sera un débat qui sera abordé dans le cadre du tribunal. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un débat. Déjà que vous organisiez ce débat-là et qu'il y ait un débat au tribunal. Je pense que ça va être porteur d'idées, j'espère. Et je trouve ça, en tout cas, tout à fait passionnant, cette confrontation en fait des principes.
Agnès Tricoire, une réaction peut-être justement sur ces choses-là qu'on ne peut pas, qu'on ne devrait pas représenter, sauf à les sanctionner. En tout cas, on ne peut pas les représenter de manière neutre ou en faisant, là on le comprend mieux, l'apologie.
Ben non, moi j'ai pas compris, parce qu'il y a une différence entre, moi je n'étais banaliser, minimiser, faire l'apologie, dire que c'est normal, montrer, c'est cinq choses qui sont complètement différentes. Donc on a des problèmes sémantiques déjà, on a vraiment, quand on réclame l'interdiction de quelque chose, il faudrait être précis. C'est complètement flou, il y a une énorme différence de niveau entre l'ensemble de ces termes. C'est très intéressant cette idée. Donc on aurait le droit de montrer un certain nombre de choses qui sont réprimées dans la vie réelle, on aurait le droit de les montrer, mais il faudrait les montrer en disant que c'est très très mal de tuer en série, par exemple. Donc il y aurait, pour tous les polars en série, il faudrait qu'il y ait une sorte de mea culpa du tueur en série à la fin, il faudrait qu'il y ait une page d'excuses du romancier pour dire qu'il est vraiment désolé d'avoir heurté la morale de ses gentils lecteurs. Vous imaginez un peu vers quoi on se dirige en termes de lecture. Alors bien évidemment, tout ça est relève de la morale, d'une morale à laquelle on est absolument habitué, parce que c'est exactement la même depuis le 19e siècle, qui prétend s'imposer aux hommes. Elle a des raisons concrètes. Au 19e, c'était protéger les femmes, aujourd'hui c'est protéger les enfants. Ça n'est qu'un prétexte. Ça n'est qu'un prétexte parce que c'est totalement inefficient. Et en fait, l'idée, c'est d'interdire que ces œuvres soient dans l'espace visible des adultes. La protection de l'enfance, d'abord, personne n'a jamais démontré qu'une œuvre était dangereuse au point d'inciter quelqu'un à passer à l'acte. Il n'y a aucune démonstration. Les œuvres ont toujours été considérées comme dangereuses par le Vatican qui avait rédigé un index pendant des siècles et des siècles. On a même zigouillé des gens à cause de ça lors de l'Inquisition. Chaque régime autoritaire remet des œuvres et des artistes en prison et brûle des œuvres. C'est systématique. Et dans les démocraties libérales, on a vécu, 40 ans de paix à peu près pour les œuvres jusqu'au début des années 2000 où des associations de défense de l'enfance se sont décidées de se mêler d'art contemporain, par exemple, et de déposer une plainte contre l'exposition présumée innocent, ou d'interroger Nicolas Jones-Gorlin. À l'époque, c'était exactement la même histoire que Vivès, mais lui, c'était un roman dont le personnage principal était un pédophile. Et il a eu exactement les mêmes questions que Vivès. D'ailleurs, ça, quand il en fait le récit, c'est très très drôle, puisqu'il a beaucoup d'humour, Nicolas, et c'est à cette époque-là qu'on a monté l'Observatoire. Donc rien de tout cela ne me surprend.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Corinne Ray, que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de Coco, dessinatrice. Elle s'exprimait dans le cadre de la 50e édition du Festival d'Angoulême, c'était en 2023.
Enfin, si je suis là aujourd'hui, c'est que je trouve que cette fameuse affaire Vivès, comme vous l'appelez, dépasse largement le cas Vivès. Je trouve que cette liberté qu'on a de tout dessiner, elle doit être défendue, et que parfois on est amené à dessiner sur la mort, sur les enfants, sur la sexualité. C'est des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder. Il faut avoir un peu de courage, de cran, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Je veux dire, ils existent de toute manière. Il faut pouvoir apporter son point de vue. Et il faut pouvoir aussi être libre de créer de manière très différente. Puis cette fameuse collection BDQ qui est quand même présentée sous blister, interdite aux moins de 18 ans. Enfin, je veux dire, il y a des précautions qui sont prises pour dire, voilà, on est dans un registre particulier. Et il se met à nu dans des fantasmes qui sont, qui restent de la fiction et non pas du réel.
Je voulais qu'on termine, Karine Durieux-Diebold, par parler de ce que c'est qu'au fond, que dessiner, que représenter à travers le dessin. Quand on regarde Petit Paul, l'œuvre de Bastien Vivès, il représente un enfant avec un sexe démesuré, plus de 30 cm, si ma mémoire est bonne. Dans le fond, ça montre bien le décalage, justement, avec le réel, le fait qu'on se situe dans un imaginaire et dans dans un autre monde. Est-ce que cette façon aussi de représenter, d'utiliser ces formes-là, démontre pas que on peut là aussi tenter de représenter des choses, et notamment la pédocriminalité?
Alors, représenter la pédocriminalité, elle est problématique parce que quand on met en scène des enfants qui ont des rapports sexuels avec des adultes, ça amène à l'admettre d'une certaine manière.
Même si le ton est satirique, même si, juste que là, encore une fois, le dessin montre qu'on se situe dans un imaginaire et sans doute dans l'ordre des fantasmes.
Ben, vous voyez que le fait même que ça soit interdit aux moins de 18 ans, ça veut dire que ça peut être choquant en soi. Ça signifie déjà ça. Et de l'ordre des fantasmes, moi, ça m'interroge quand même d'avoir des fantasmes, de présenter des fantasmes sur des viols d'enfants, parce que je le répète, il est interdit en France qu'un adulte ait des rapports sexuels avec un enfant de moins de 15 ans. Donc, ce sont des viols. Donc, cela m'interroge déjà ce terme de fantasme.
C'est vraiment problématique. C'est le terme employé par Bastien Vivès lui-même. Hein. C'est pour ça que je l'ai utilisé.
D'accord. Ça questionne. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, dans la pédocriminalité, vous avez vraiment un continuum d'infractions qui sont en lien les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on a... Moi, je traite beaucoup de dossiers d'inceste, d'enfants violés. Mmh. Et très souvent, on fait les exploitations des ordinateurs, des agresseurs sexuels et des téléphones portables. Et on a de la pédopornographie. Alors, la pornographie, elle n'est pas interdite en France. Mais la pédopornographie, elle est interdite. Et quand on a effectivement de la pédopornographie, par exemple sur un ordinateur, c'est pas banal quand même que l'on regarde et qu'on s'excite sur des scènes de viol d'enfants. Il y a un lien avec la pédocriminalité. Et c'est pas neutre. Et souvent, l'un amène à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a cet interdit-là. C'est vraiment important. C'est dans un souci de protection de l'enfance et de lutte contre la pédocriminalité.
Agnès Tricoire, une réaction, et sans doute une réaction sur jusque-là, encore une fois, sur le dessin. Est-ce qu'il y a une singularité, là, encore une fois, de la représentation du dessin?
Oui, moi, j'approuve totalement ce que dit Coco, qu'on a soutenu d'ailleurs, parce que parfois, elle se prend des volets de bois vert quand elle fait certains dessins. Donc, on est là pour la soutenir aussi. Je voudrais parler de Myriam Khan à propos de dessin. Vous savez ce qui s'est passé au Palais de Tokyo? Rapidement, elle a été poursuivie avec exactement les mêmes arguments que vous utilisez. Par des associations d'extrême droite et par le Front National pour avoir peint, et le Palais de Tokyo pour avoir exposé, un tableau dans lequel on voit un adulte avec un personnage de petite taille, qualifié d'enfant, alors très peu dessiné, hein, contrairement au dessin de Vivès, là c'est très imprécis, mais enfin manifestement un personnage de beaucoup plus petite taille et en position agenouillée devant, probablement en train de faire une fellation. C'est pas très explicite parce que les traits sont brouillés, mais en tout cas c'est l'accusation qui est portée. Et
en quelques mots, parce qu'on arrive déjà au terme de l'émission.
Le Conseil d'État, tout simplement, le Conseil d'État a été saisi par ces associations et il a dit « circuler, il n'y a rien à voir, c'est la liberté totale du Palais de Tokyo de montrer ça ». Et en fait, cette artiste, Myriam Khan, elle évoque justement les violences faites pendant la guerre, c'est pas pareil. Oui, il y a une intention, mais il y a une intention dénonciatrice. Justement. Mais ouais. J'entends bien, mais vous voyez bien que si on se met à tenir compte des intentions de l'auteur, on rentre dans un jugement, alors qui est à la fois un jugement esthétique et pas loin de la morale, et c'est assez délicat.
Merci beaucoup à toutes les deux de cette discussion, de ce débat passionnant, je dois le dire. Agnès Tricoire, vous êtes avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, présidente de l'Observatoire de la liberté de création, et Karine Durieux-Diebol, vous êtes avocate spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, ancienne membre de la Civise. Merci encore à toutes les deux.
Merci.